les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Salut les amis, je me présente, Thomas Angelvie, j'ai 29 ans et moi je viens de Poitiers. Voilà, ça te flingue une ambiance, hein, généralement. Vous connaissez Poitiers? Ouais, Futuroscope, voilà, j'ai entendu. Ça va, pas de blague sur Futuroscope? Ça va? Parce que je te jure, hier, j'ai joué à Paris et quelqu'un m'a regardé comme ça, il m'a dit Poitiers. C'est drôle quand même. Avoir mis le Futuroscope dans une ville où les gens vivent dans le passé. Alors tu vois, moi j'ai regardé, je lui ai dit ouais, toi t'es parisien? C'est drôle quand même. Avoir mis autant de culture dans une ville où les gens sont si cons.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de notre invité du jour, Anthony Brottier. Anthony, bonjour, comment allez-vous?
Merci pour l'invitation.
Merci d'être venu aujourd'hui, hein, météo un peu particulière, il fait frais, hein, il commence à faire frais.
Oui, il commence à faire frais, ça gèle sur les routes et j'ai vu que les services du département faisaient très bien leur travail puisqu'elles étaient sorties tôt ce matin.
Exactement, on va parler de Poitiers pendant toute cette émission. Les services de Poitiers aussi font leur service? Il n'y a pas de soucis?
Non, il n'y a pas de soucis, ils sont au travail, au quotidien et là-dessus on a de la chance.
Exactement, je le dis pour nos auditeurs, hein, vous êtes candidat aux élections municipales à Poitiers en 2026. Vous l'avez été, on va en reparler, en 2020 déjà, un candidat malheureux, je ne sais pas, on verra ça. 2026, vous êtes conseiller municipal à Poitiers, conseiller municipal d'opposition, c'est ça?
Exactement, conseiller municipal d'opposition. Avec un groupe, hein, on est plusieurs élus, donc à Poitiers et à Grand Poitiers. Donc, dans l'opposition pendant 6 ans, eh bien, on s'efforce de faire entendre la voix des Poitevines et des Poitevins qui nous ont amenés ici en 2020.
Exactement. Conseiller municipal donc, d'opposition, conseiller départemental d'opposition, là aussi.
Oui, également, conseiller départemental sur le canton de Poitiers 1, qui regroupe Fontaine-le-Comte, Croutel, Biard et Poitiers-Ouest et Poitiers-Sud. Et donc là aussi, pas dans la majorité, donc avec des discussions pour faire entendre parfois des voix un peu divergentes de celles que peuvent être les voix de la majorité.
Et vous étiez donc comme conseiller communautaire, vous êtes toujours conseiller communautaire ou...
Oui, tout à fait, toujours conseiller communautaire. J'ai eu une responsabilité au début du mandat, j'ai été de manière... relativement courte vice-président en charge des sports, et puis après nous avons eu des divergences sur la fiscalité locale.
Exactement, vous n'êtes pas le seul, hein, puisque notre ancien maire, hein, Gérard Herbert, lui aussi était parti à ce moment-là, et je crois que c'est Jérôme Neveu, hein, qui a été... on a dit à l'époque que ça venait peut-être du fait que vous avez été élu conseiller départemental, et que c'était une façon de vous faire comprendre qu'il fallait vous stopper vos ambitions.
Je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, c'est vrai que ça coïncidait avec la période des élections départementales, ce qui serait un peu étonnant puisqu'on venait d'être conforté par les électeurs. Mais c'était aussi la période où on s'était opposé à l'augmentation de la fiscalité, hein, puisque la taxe foncière, la part de la taxe foncière de Grand Poitiers avait été augmentée à ce moment-là de 300%, donc plus 8 millions d'euros dans les caisses de Grand Poitiers. Et en charge des sports, je m'y étais opposé parce que ça ne bénéficiait pas du tout au monde du sport. Donc, c'est les motifs qui m'ont été opposés à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Vous parlez de sport, ça tombe bien, vous avez une allure athlétique, on peut le dire. Qu'est-ce que vous faites du sport, vous-même? Sûrement, j'ai vu sur les réseaux que vous faisiez du trail, je crois.
Oui, je suis un passionné de sport, j'ai grandi dans le sport. Je viens du judo, où j'étais en section sportive quand j'étais plus jeune, au Pôle France, à Poitiers, puis à Bordeaux. Et puis après, je me suis mis un peu au rugby. Et puis depuis l'âge se faisant, plutôt à la course à pied, marathon, trail, ultra trail. Et donc, ouais, je cours beaucoup.
Là, cheveux faisant, je vous remercie, j'ai 58 ans, vous en avez 39. On comprend que je dois m'arrêter moi de mon côté. On parle du trail. Vous avez fait le trail du château déjà à Chauvigny?
Non, j'ai voulu m'inscrire cette année sur le 50, qui est la longue distance, ouais. Et il n'y avait plus de place. Mais ça fait partie des objectifs dans les années à venir. Je passerai forcément le courir.
Eh ben, écoutez, on vous mettra en rapport avec nos amis de SNC 86, hein, qui organisent d'ailleurs, en collaboration avec le département, avec la ville de Chauvigny, le circuit des Lucioles, hein, dans 15 jours, donc pour le Téléthon. Le trail des châteaux donc, qui se déroule à Chauvigny. Chauvigny, c'est le triangle d'or historique de la Vienne, Chauvigny, Angle-sur-Anglin, Saint-Savin. J'en parle dans chaque émission. Le patrimoine, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Oui, le patrimoine, et surtout quand on est candidat à Poitiers, c'est forcément quelque chose d'important parce que c'est une ville avec aussi beaucoup de patrimoine. Mais le patrimoine, ça veut dire qu'il faut y veiller, et c'est une des difficultés qui va se présenter pour le prochain mandat. C'est comment est-ce qu'on entretient et on rénove notre patrimoine avec des moyens qui sont de plus en plus contraints. On a eu, il n'y a pas très longtemps à Poitiers, un rapport de la Chambre régionale des comptes, justement, sur le patrimoine. Et donc, il y a des choses qui sont engagées, hein, qui se voit dans le centre-ville de Poitiers, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, donc c'est forcément un point d'attention. Là-dessus, il n'y a pas de recette miracle, il y a les fonds publics, il y a les fonds privés, il faut tout mobiliser pour essayer d'entretenir au mieux notre patrimoine.
Quand on s'appelle Brottier, on s'intéresse forcément au patrimoine. Vous avez un lien avec les agences immobilières Brottier, ou de familiaux en tout cas?
Pas du tout.
Pas du tout, je pensais que c'était un oncle peut-être.
Non, pas du tout.
Par contre, un lien avec le maire de Fontaine-le-Comte?
L'ancien maire.
L'ancien maire,
effectivement.
Il a arrêté, je vais vous poser la question justement s'il se représentait ou non, il a arrêté de son activité. Maire, combien d'années?
Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que mon père a été maire entre 1993 et 2020.
Ah oui, d'accord. Donc, il a été maire durant quelques années. Vous vous êtes lancé dans la politique, de quelle façon ?
Eh bien,
suivant papa, peut-être pas.
Non, pas du tout. C'était plutôt même au contraire. Quand on a un père qui a été élu, on a plutôt tendance à pas forcément adhérer à cela parce que ça mobilise beaucoup de temps. Surtout que c'était pas son activité professionnelle. Mais non, en 2017, puis 2018, 2019, il y avait quand même une vague et une volonté de renouveler les visages en politique. Et on a eu cette volonté à Poitiers de se dire que c'est pas parce qu'on n'avait pas d'engagement qu'on ne pouvait pas en avoir, même si on était jeune, puisque j'avais 6 ans de moins en 2020. Et donc, on a travaillé avec un groupe, construit un programme et on s'est porté avec cette volonté de dire il est possible de faire différemment, on ne peut ne jamais avoir eu d'engagement. Et c'est aussi le message qu'on porte aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas des professionnels de la politique, mais on a forcément des choses à dire et on n'est ni plus ni moins que des pots de vin et des pots de vin qui s'engagent.
Exactement. Pour nos auditeurs, je vous dis physiquement, vous ressemblez un peu à Bernard Campan, en plus jeune. En plus jeune, on parle d'âge de puteur. Si j'en parle, c'est pas par hasard, c'est parce que vous avez un fils qui fait du cinéma, qui au moins fait un film, c'est Raphaël, je crois, qui a une douzaine d'années.
C'est ça, Raphaël a eu 12 ans il y a quelques jours, il a eu la chance de se lancer dans le cinéma sur un long métrage au cinéma avec Bernard Campan qui s'appelle L'enfant qui mesurait le monde.
Il avait le premier rôle d'ailleurs.
Exactement, tout à fait, il a depuis tourné dans des séries, des courts-métrages qui vont sortir aussi dans les semaines et mois à venir, donc il a une petite carrière de cinéma, oui.
On doit être fier quand on est papa d'avoir un fils qui crève l'écran, on va dire.
Ouais, on est fiers et puis surtout on découvre un monde qu'on connaissait pas du tout parce que c'est un monde qui nous est complètement étranger. Donc ça demande pas mal de temps. Hein. Quand il a tourné son premier film, il est parti pendant 2 mois en Grèce. C'était sur une petite île grecque. Donc quand on a 9 ans, partir c'est pas forcément facile. Mais non, ça nous fait vivre beaucoup d'expériences et on grandit avec lui et puis il s'épanouit. Donc c'est l'essentiel pour des parents.
Un papa qui est ancien maire, donc qui a été aussi avocat, je crois.
Oui, principalement avocat, d'ailleurs, plus qu'ancien maire. Il a fini sa carrière d'avocat il y a quelques mois. Mais oui, ça a été l'essentiel de son activité.
En argot, avocat, c'est le baveux. Hein. Vous avez travaillé un temps, alors sans vouloir présenter, mais en tant que directeur d'EHPAD, je crois. Hein.
C'est ça. C'était mon premier métier, en dehors des jobs étudiants. Après mes études de droit, j'étais directeur d'EHPAD en Charente-Maritime. Donc c'est un métier ultra formateur, ultra enrichissant et qui nous confronte aussi aux réalités du quotidien et qui fait que d'ailleurs demain, dans ce qu'on devra porter, y compris à la ville de Poitiers, il y a une attention particulière sur les aînés. C'était ma première activité professionnelle. Après, j'ai travaillé au CNED pendant quelques années sur la plaque du Futuroscope avant d'occuper le poste que j'occupe aujourd'hui.
Voilà, puisqu'il faut rappeler qu'être conseiller d'opposition ou non, d'ailleurs, ça ne rapporte pas grand-chose. Hein. C'est quoi ? C'est en indemnité de fonction, on va dire ?
Une indemnité pour un élu d'opposition à Poitiers, c'est une centaine, un petit peu plus, 110, 120 euros.
Combien d'heures par semaine ? Peut-être pas, c'est au mois, je pense.
Il y a des périodes avec des pics et des périodes un peu moins, mais c'est vrai qu'il y a les commissions, il y a les conseils, il y a la représentation. Et puis, comme on est un petit groupe, quand on prépare un conseil municipal, eh bien, on le prépare dans son intégralité. Donc, on doit balayer l'ensemble des délibérations. Et avec notre groupe, on a vraiment eu à cœur tout au long de ce mandat de travailler tous les sujets. Ça a d'ailleurs été reconnu par l'ensemble des membres du conseil municipal. Et donc, on y a passé beaucoup de temps. Donc, ouais, c'est plusieurs heures, voire jours de préparation chaque mois et qui se font, vous l'avez compris, en plus de notre activité professionnelle, en fait, puisqu'on a tous une activité professionnelle, une vie familiale. Donc, c'est un véritable engagement pour une indemnité qui est une petite indemnité, effectivement.
Vous avez commencé la politique en tant que macroniste, hein, du côté de Sacha Houlier. Mmh. Qu'est-ce qui vous a amené à changer, on va dire, aujourd'hui à vous présenter sans étiquette ?
Le virage, il a été fait assez tôt, en fait. Je le disais tout à l'heure, mon engagement en 2020, c'était l'engagement de se dire qu'on pouvait faire de la politique autrement, qu'on devait pouvoir dépasser les clivages, qu'on peut pouvoir s'affranchir des partis politiques pour porter l'intérêt des électeurs, des citoyens. Et on n'a pas senti dans la continuité qu'a pris ce mouvement-là qu'il y avait toujours cette volonté-là. Et donc finalement, nous, on n'a pas changé. Notre volonté, c'est toujours d'intégrer le plus grand nombre de Poitevin, de faire une équipe à l'image de Poitiers. Et peu importe finalement les sensibilités politiques de chacun, on ne renie pas ses valeurs, mais le point commun et l'intérêt central qu'on doit avoir, c'est Poitiers.
Alors je le disais tout à l'heure, vous êtes présenté en 2020, candidat malheureux ou non, c'est vous qui nous le direz. Par contre, un qui a été malheureux, c'est Alain Claës à l'époque. Hein, vous aviez participé, on va dire, quelque part un peu à sa chute. Quand on pense qu'entre le premier tour et le deuxième tour, vous êtes resté présent au deuxième tour. Hein, et peut-être, alors lui a peut-être quelques rancœurs de ce côté-là. Qu'est-ce que vous retenez de cet événement
Non, mais je crois qu'il faut... ce sont les électeurs qui choisissent. Et avec Alain Claës en 2020, on avait des divergences. Alors, il peut y avoir certaines convergences, mais il y avait des divergences sur la manière de faire de la politique. Et donc, on ne peut pas, quand on a de telles divergences à un entre-deux-tours, se dire on oublie toutes les divergences qu'on a mis en exergue pendant la campagne. Et donc, on a maintenu notre candidature parce qu'elle proposait quelque chose de différent. Et d'ailleurs, elle a réuni plus de 20% des suffrages à l'époque. Donc oui, forcément, dès lors qu'on capte une partie de l'électorat, bien ça se fait pas pour les autres, et donc on a contribué à ce qu'il ne soit pas réélu. Mais il y a différentes manières de voir les choses. Soit on considère que Alain Claës a perdu, soit on considère que Léonore Monconduit a gagné.
Voilà, c'est ça. Dans les deux cas, vous êtes un des perdants, vous aussi. Au niveau de ces élections, justement, on parle aujourd'hui de rancune un peu d'Alain Claës. Vous avez des éléments sur son retour possible ou non? On parle de Sacha Houlier, peut-être d'un duo, quelque chose comme ça, non?
Non, écoutez, ça fait un petit moment maintenant qu'on est sur le terrain, qu'on est en campagne. On l'était évidemment mobilisé pendant tout le mandat. Ce qu'on se rend compte, c'est que pour le moment, sur le terrain, on n'a pas d'autres candidatures présentes quand on fait du porte-à-porte, quand on colle des affiches, quand on distribue des tracts. Donc je ne sais pas s'ils sont en train de faire quelque chose, mais si c'est le cas, je ne suis pas au courant.
D'accord, on verra s'il y a d'autres candidats. Et Léonore Monconduit s'est représenté, enfin se représente en tout cas. Lucille Pernodeau, j'ai reçu il y a quelques semaines, elle aussi se présente. J'ai entendu parler d'un collectif aussi, J'aime Poitiers, j'en sais pas trop, à ce niveau-là, qui voudrait élire un maire par... un candidat en tout cas, hein, par... comment, par correspondance ou autre, hein, c'est un peu spécial. Vous avez des nouvelles sur ces différents...
Non, je vois comme vous dans la presse, hein, je vois effectivement le collectif J'aime Poitiers qui s'est réuni, je crois, pour désigner un candidat qu'ils annonceront ce week-end. J'ai vu votre invitée de la dernière fois, Madame Pernodeau, Léonore Monconduit, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de respect de manière générale pour tous ceux qui s'engagent, hein, c'est vraiment une bonne chose et c'est la politique telle que... Moi, je la considère, c'est-à-dire que la politique locale est ce qui nous différencie à de nombreux égards de la politique nationale. Et c'est forcément pas facile pour chacun de s'engager. Donc, je respecte l'engagement de chacun. On aura des points de divergence entre les candidats au final, une fois que chacun aura présenté sa liste, hein, puisqu'effectivement, il faut avoir 53 personnes pour faire une liste à Poitiers. Et donc, on verra ça en février. On aura des divergences à faire valoir, mais j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui s'engagent en politique.
Tout à fait. Je remercie, moi, Lucille Pernodeau, d'être venue ici il y a environ un mois. J'invite toujours, hein, Madame Léonore Monconduit à venir nous rejoindre. J'attends de ses nouvelles, hein, tout simplement. Je l'ai invitée par deux fois. La première fois, j'ai eu Florence Jardin, donc très gentille, très, très sympathique aussi ici. Je la réinviterai d'ailleurs pour nous parler de son bilan à ce moment-là à Grand Poitiers, qui est peut-être, on va en parler tout à l'heure, pour certains un peu mitigé. Moi, ce qui m'intéresse, on va parler de politique, hein, locale d'ici quelques instants, après la pause musicale. On parlait tout à l'heure de patrimoine, et c'est vrai qu'il y a énormément à faire sur Poitiers. Globalement, vous diriez que le bilan des années passées, hein, au niveau du patrimoine, c'est un bon bilan, c'est un bilan mitigé, c'est beaucoup de choses à faire encore.
Je dirais qu'il est relativement neutre, oui. Alors, il y a des choses qui se sont faites par la force des choses, c'est-à-dire que l'état se dégradant sur certains bâtiments, il a fallu intervenir, mais plus en curatif qu'en préventif. Et tout l'enjeu du maintien du patrimoine, c'est d'être capable d'anticiper ce qui s'est passé. Parce que quand on est dans le curatif, c'est déjà un peu trop tard et on ne maîtrise plus les coûts. Donc, il y a un gros travail à faire sur le patrimoine culturel. Il y a aussi à faire un travail sur le patrimoine bâti en général, parce que Grand Poitiers et Poitiers ont beaucoup de patrimoine, pas forcément un patrimoine historique, hein, des monuments historiques, mais beaucoup de patrimoine, avec derrière un coût énergétique, un coût en ressources humaines, je pense aux gymnases, je pense aux équipements culturels, je pense aux bâtiments. Et donc il y a forcément une réflexion à mener sur comment on optimise, comment on rend accessible. On a encore beaucoup de bâtiments de la collectivité qui ne sont pas accessibles, et ça, c'est pas normal en 2025. Et donc il y a tout ce travail-là à faire, et qui est aussi, oui, un vrai sujet pour les années à venir.
Écoutez, on reparlera de patrimoine après cette pause musicale. On va écouter Quatre murs et un toit, c'est Benabar, justement au niveau patrimoine. Et on se retrouve tout de suite après.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple divague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants, corrige la fin d'enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros off, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond. Le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus. Un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent. On pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant. On remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant. La cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin. Madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain.
Les enfants vont et viennent chargés de linge sale. Ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtement par vêtement, petit à petit, et vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, c'est pas nos petits cow-boys aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux 4 heures. Fini tes devoirs, il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère. Les enfants à table, écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Nous sommes toujours sur ROC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Anthony Brottier, qui est candidat aux élections municipales de Poitiers 2026, en compagnie aussi, tiens, je le dis, de Paul, hein, qu'on voit quelquefois sur, enfin, qu'on entend quelquefois sur les vidéos, Facebook ou autres, qui sont diffusées. Ces petites vidéos, c'est quelque chose qui vient d'où, de cette idée? Je vois que les candidats en sont de plus en plus friands.
Oui, c'est un vrai vecteur pour toucher un maximum de monde, parce que tout l'enjeu d'une élection et de lorsqu'on est élu, c'est de parler au plus grand nombre. Il y a ceux qu'on rencontre dans la rue et puis il y a ceux qu'on peut pas toujours rencontrer. Et donc, les vidéos, elles permettent, de parler au plus grand nombre, de faire de la pédagogie aussi sur des sujets qui sont pas toujours simples. Donc, de les aborder avec une certaine légèreté, une certaine pédagogie sur des formats courts. Parce qu'on sait que les gens ne regardent pas des vidéos qui durent 10 minutes. Et donc, j'ai la chance pour ça d'être accompagné par Paul, qui fait un remarquable travail.
Exactement, Paul. Alors moi, la référence, c'était Paul, à l'époque d'une publicité, Paul, une tourtelle. Apparemment, Paul a d'autres références, lui, musicales, puisqu'on passait à l'instant la chanson « Quatre murs et un toit », donc de Benabar, qu'il ne connaissait pas forcément. Au niveau du patrimoine, justement, on en parlait, hein, on parlait de patrimoine sur Poitiers. La Cour des comptes n'a pas été franchement très sympathique, on va dire, avec le bilan actuel du patrimoine. On le voit, alors moi, avec mon œil à moi, quand je vais sur Poitiers à partir de Chauvigny, je m'arrête normalement au parking. Mmh. Aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter au parking un peu plus bas, vers le palais de justice. On a des nouvelles de ce parking Charles de Gaulle? Ça va, ce qu'il en devient?
Non, alors il y a forcément des études qui ont été menées et nous, élus d'opposition, on n'a pas toutes les informations. Alors le premier niveau a réouvert, hein, ce qui donne un petit peu d'air pour les commerçants, pour les visiteurs du centre-ville. Mais il y aura forcément sur le mandat à venir un véritable chantier sur le parking Notre-Dame, parce qu'il y a un besoin de stationnement, parce que la vivacité, la vie du marché en dépend, parce que la vie du centre-ville en dépend et parce qu'on a bien senti ces dernières années qu'on avait dans le centre-ville finalement une polarisation et deux entités, la partie du côté de la mairie finalement et puis la partie du côté du marché, et il faut qu'on puisse revitaliser cette partie-là et ça passe par du stationnement. Donc il faut apporter un projet là-dessus.
Exactement, donc une des portes d'entrée, hein, c'est le parking Charles de Gaulle. Autre porte d'entrée, c'est l'avenue de Paris. Hein. Moi, j'y passais pendant quelques années tous les jours. Et c'est vrai que cette avenue, elle est un peu triste. Aucun travaux en cours ou à venir ou peut-être dans votre programme qui sera diffusé bientôt, je pense.
Oui, pas à ma connaissance sur cette avenue-là, mais encore une fois, je n'ai pas forcément toutes les informations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des aménagements qui doivent être faits sur Poitiers et Grand Poitiers et notamment dans les entrées de ville, que ce soit l'entrée sud, que ce soit à l'ouest, que ce soit à l'est ou au nord, on en parlera peut-être de la liaison avec le Futuroscope. Mm-hmm. Sur les 4 entrées de ville de Poitiers, il y a un véritable enjeu pour faciliter l'accès, pour faciliter la cohabitation des usages, que ce soit les cyclistes, les piétons, les voitures et les bus, et pour faire en sorte que les mobilités soient apaisées.
L'accès par Chauvigny, c'était aussi une piste cyclable. Elle est toujours d'actualité, elle est toujours en fonction, cette piste cyclable, cette pénétrante, hein, qui va jusqu'au parking.
Oui, elle est toujours en fonction, c'est la voie Malraux, hein, alors avec un certain nombre de limites et de dangerosité. Pour ça, il faudra avoir des éléments objectifs, hein. C'est quelque chose qui avait été décidé à la fin du mandat précédent, de la passer en voie cyclable. Bon, dès lors que le pont neuf a été refait, avec plus de place pour les cyclistes, il faudra s'interroger si ça a toujours du sens d'avoir la voie Malraux avec une voie réservée aux cyclistes, si elle est utilisée. Si elle est utilisée, il n'y a pas de difficulté. Si aujourd'hui les cyclistes privilégient l'axe par le pont neuf, alors il faudra réinterroger son utilisation.
Exactement, l'axe par le pont neuf, hein, 12 millions d'euros, je crois, de travaux. Alors on peut se poser quelques questions, savoir sur l'utilité. Alors j'y suis passé, franchement, j'y suis passé, c'était lors d'un pont, c'était pour le 10 novembre, je crois, et j'ai trouvé que c'était une zone un peu morte, hein, il n'y avait rien. Alors vous allez me dire, c'était le pont, c'est normal, les commerces étaient peut-être fermés, pas de circulation, très peu de vélos, 2-3 vélos quand même. Le retour par rapport à ça, des commerçants et autres
C'est le point de difficulté, parce que quand on entend les usagers, notamment les cyclistes, il y a quand même un niveau de satisfaction qui est bien mieux que ce que c'était avant. Donc de ce point de vue-là, c'est positif, même si sur les carrefours, on entend qu'il y a des difficultés. Après, il y avait un objectif sur la rénovation du Pont-Neuf qui était de faire du Pont-Neuf, de ce quartier, une vie de quartier, un boulevard. Là, on a le sentiment que pour le moment, ce n'est pas une réussite. On a le sentiment que les commerces ont souffert, qu'on ne sait pas s'ils arriveront tous à se relever complètement. Donc tout ça, il faut l'objectiver, hein. Il faut aller voir les commerçants un par un, aller voir leur chiffre d'affaires avant, leur chiffre d'affaires maintenant. Ils ont une difficulté qui est liée au stationnement, hein, quand vous passez. C'est quelque chose qui le remonte. Et donc tout ça, il faut mesurer, parce que si jamais il y a des difficultés, il faut se mettre en ordre de marche pour les régler.
Exactement. On a l'impression d'avoir résorbé en tout cas le problème des bouchons. Hein. C'était un point noir de ce côté-là. Je vous dis, je suis passé le 10 novembre. Je vais très peu à Poitiers, en fait. Hein. Poitiers, il manque d'attractivité, en fait, peut-être aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a un souci de ce côté-là. Très peu de gens la viennent lorsqu'il s'agit d'aller à Poitiers. On se dit que c'est un peu un calvaire, hein, entre le 30 à l'heure, entre les sens interdits et puis entre le mal-être au niveau de la circulation. Les améliorations sont nombreuses à venir.
Oui, mais c'est un véritable enjeu. Hein. C'est-à-dire que vous l'évoquez pour les habitants de la Vienne, et puis l'enjeu de l'attractivité, il dépasse les habitants de la Vienne, c'est aussi pour les milieux économiques, hein. On doit parler d'attractivité, de développement économique, et donc tout ça, ce sont les signaux qu'on va envoyer à l'extérieur, les signaux qu'on va envoyer aux habitants des communes périphériques, les signaux qu'on va envoyer aux entreprises pour leur dire « vous êtes les bienvenus à Poitiers ». Aujourd'hui, on envoie plus de signaux négatifs, vous les avez évoqués, que des signaux positifs. Et donc dans les années à venir, que ce soit à destination des entreprises, que ce soit à destination des habitants de la Vienne, il faut leur dire « vous êtes les bienvenus et on va vous faciliter l'avenue ». Ça passe par le stationnement, ça passe par la simplification des aménagements des entrées de ville, et pour les entreprises, ça passe par aussi un discours qui est favorable aux entreprises.
Et puis ça passe par un rapport un peu plus harmonieux, on va dire, avec les institutions locales, que ce soit le département, que ce soit la préfecture. J'avais le préfet il y a quelques semaines ici aussi dans le studio, hein, on échangeait par rapport à cela. Il semblerait que le mandat qui vient de s'écouler, qui se terminera peut-être au mois de mars, ait eu quelques soucis d'approche avec les différentes institutions. Vous avez des bons contacts, vous, avec le département? Oui, puisque vous êtes même élu d'opposition, vous êtes quand même élu. C'est des bons contacts avec ces...
Moi, j'ai des bonnes relations. Effectivement, je siège au conseil municipal et au conseil départemental, et j'ai de bonnes relations avec le conseil départemental. Mais vous avez raison de pointer et de souligner qu'il y a une nécessité absolue d'avoir des bonnes relations entre les collectivités. Parce que si chaque collectivité a ses compétences, il y a quand même des compétences qui sont liées. Quand on parle de social, hein, qui est la compétence principale du département, eh bien, ça touche forcément aussi Poitiers, le CCAS. Et donc, si on est capable de discuter, de travailler, plutôt que de s'opposer, on arrivera forcément mieux à avancer. Et c'est un peu ce qui a été la limite du mandat actuel, c'est-à-dire que sur des sujets très structurants pour le territoire, ça a été le cas sur l'équipe de Prève qui a été supprimée dans certains quartiers de Poitiers, ça a été le cas sur l'aéroport, évidemment, ça aura échappé à personne. Sur ces sujets-là, on n'a pas le sentiment qu'entre les collectivités, on est dans le dialogue, alors que le dialogue, c'est forcément la bonne solution.
Exactement, l'aéroport qui ne devait plus être le rêve d'un enfant, voler n'était pas un rêve d'enfant, d'après Madame Monconduit. Votre avis par rapport à cet aéroport, justement, là, actuellement, c'est tout ce qui s'est...
Je me souviens très bien de cette intervention, hein, puisque ça faisait suite à une question qu'on avait posée au sein du groupe et qui avait été reprise après, alors avec... toutes les limites de ce qui peut être fait sur les réseaux sociaux, hein, et donc ça je le déplore. Non, l'aéroport il est nécessaire pour le territoire, très clairement il est nécessaire pour l'attractivité, pour le signal qu'on envoie, je le disais tout à l'heure, aux acteurs économiques, il est nécessaire pour notre CHU, hein, indispensable même, et donc il faut juste bien travailler à son avenir, parce qu'un aéroport ça ne peut pas se faire non plus avec que de l'argent public, et donc il faut travailler à un modèle qui soit stable, qui permettent aux Poitevines et aux Poitevins d'accéder, et aux habitants de Grand Poitiers évidemment, d'accéder à une offre qui soit à la hauteur des enjeux et qui permette à l'aéroport de trouver un équilibre. Ça ne peut pas être financé que par de l'argent public.
Un aéroport, une gare aussi, une gare SNCF qui avec peut-être plus d'arrêts possibles.
Oui, bah sur la gare, il y a un véritable enjeu sur la liaison avec Paris, sur la liaison avec Bordeaux. On voit qu'on est un peu mis en difficulté parfois par l'État et par la SNCF. Il faut maintenir ces liaisons. Et puis, on a une gare aussi, ça aura échappé à personne, au Futuroscope, avec oui, des sûr. TER qui font Poitiers-Futuroscope, qui ne semblent pas aujourd'hui suffisamment utilisés. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Et on a des débuts d'explication. Parce que la liaison avec le Futuroscope, notamment par le rail, c'est forcément une des options qui pourra nous permettre à la fois que les touristes du Futuroscope, ils sont passés de 2 millions à 2,5 millions cette année, puissent venir dans Poitiers, mais aussi que les gens qui vivent à Poitiers et travaillent sur le Futuroscope, que ce soit au Futuroscope, que ce soit sur les acteurs de l'éducation nationale, que ce soit dans les centrales d'appel, bien, puissent se rendre plus facilement sur le site.
Vous parliez de 2 500 000 visiteurs au Futuroscope. Au niveau de Poitiers, on a une idée, parce qu'on a annoncé l'année dernière un chiffre de 2 millions de visiteurs. Alors, c'est difficilement calculable, je suppose.
Non, on n'a pas de visibilité. Ce qu'on sait, par contre, c'est que sur les 2,5 millions qui vont au Futuroscope aujourd'hui, très peu, finalement, se rendent à Poitiers. Oui, et ça. L'enjeu des années à venir, c'est d'être capable... Comment est-ce qu'on capitalise sur ces touristes qui viennent, qui se rendent à Chasseneuil-du-Poitou, aux portes de Poitiers? Surtout que, précédemment, le Futuroscope, vous y veniez une journée, et puis vous faisiez le parc et vous repartez. Aujourd'hui, avec l'Aquascope, avec les hôtels qui se développent par le Futuroscope et autour sur la plaque, eh bien on a des gens qui viennent plusieurs jours. Et donc s'ils viennent plusieurs jours, il faut qu'on réussisse à les faire venir à Poitiers parce qu'il y a d'autres choses à leur montrer et parce qu'il y a du patrimoine, vous l'évoquiez, et plein de qualités. Et donc dans les années à venir, on devra capitaliser sur les touristes du Futuroscope. C'est 2,5 millions cette année, mais ça sera probablement plus hein, parce qu'on peut quand même souligner que le parc du Futuroscope est sur un développement qui est positif. Et donc il faut travailler main dans la main avec eux pour... Eh bien voilà, en profiter aussi à Poitiers.
Exactement, sachant qu'il y a une volonté d'ailleurs du Futuroscope hein, de développer un peu ses liens avec le Poitiers et puis autres, puisqu'il s'intéresse d'ailleurs au triangle d'or historique du Poitou, hein, de Chauvigny, Anglesey, Anglin, Saint-Sermain. Il s'intéresse aussi à Montmorillon avec la Cité de l'Écrit. Et puis avec on va parler de gastronomie, vous étiez l'autre jour au salon de la gastronomie. Et c'est vrai que Montmorillon a reçu une visite récemment pour peut-être hein, que ce projet d'école gastronomique puisse se développer sur Montmorillon. Je parlais de gastronomie, je parlais surtout de Grand Poitiers et puis de Poitiers et puis du Futuroscope. Les liens donc avec le Futuroscope sont importants hein, pour Poitiers, c'est vrai qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui selon vous manque aujourd'hui par...
Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la mobilité. Hein, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes à la gare du Futuroscope, vous n'êtes pas au Futuroscope. Moi, j'ai travaillé au CNED pendant plusieurs années, donc le CNED qui est sur la plaque. Les gens qui arrivent en train au Futuroscope, eh bien, ils doivent encore
Traverser l'avenue.
Exactement, et c'est pas à pied forcément très très agréable. Donc il y a la question du dernier kilomètre. Donc dans le programme qu'on sortira dans quelques semaines, il y aura quelque chose de proposé pour cela. Et puis il y a aussi la question des horaires de bus, parce qu'aujourd'hui on a une offre de transport via Vitalis qui va jusqu'au Futuroscope, mais peut-être qu'il faut travailler sur l'amplitude. Par exemple, aujourd'hui vous finissez un spectacle à l'Arena à 22h30, 23h, vous n'avez plus d'offre de transport pour rentrer. On a quand même dans l'Arena 5-6 000 personnes selon les spectacles. Donc il faut travailler à l'amplitude horaire, il faut s'adapter aux usages des gens, parce que si on veut inciter les gens à prendre les transports en commun, il faut que l'offre soit à la hauteur. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ce n'est pas le prix qui freine aujourd'hui les gens à utiliser les transports en commun, mais plutôt la qualité, la fréquence et l'amplitude de l'offre.
Exactement. On le voit d'ailleurs sur Chauvigny avec cette ligne qui a été créée et qui apparemment a un franc succès avec énormément de monde. Moi, je l'ai pris 2-3 fois. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que le bus est plein. Donc, il y a des solutions, sincèrement, pour amener les gens vers Poitiers, d'autres à venir. On parle de bus, quand j'avais reçu même Parnaudot, puis d'autres aussi, j'avais parlé de bus du patrimoine. Tiens, au moment des journées du patrimoine, est-ce que ça pourrait être une idée, selon vous, à développer, pour faire connaître le patrimoine extérieur? Parce que c'est vrai qu'on parle de Poitiers, mais les gens de Poitiers ne connaissent pas l'extérieur, et puis les gens comme moi vont très peu sur Poitiers.
Oui, il y a un enjeu sur la connaissance du patrimoine qui est à la fois à l'échelle de notre communauté urbaine, c'est-à-dire de Grand Poitiers, mais également pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et votre idée de valoriser le patrimoine de l'ensemble de la communauté urbaine, voire au-delà, ça a forcément du sens, mais ça pourrait être aussi lié avec le Futuroscope, c'est-à-dire qu'un circuit qui permettrait à des gens qui viennent 2-3 jours sur Poitiers de profiter du patrimoine, moi je pense que ça a forcément du sens. Donc il y a des enjeux de communication et il y a des enjeux de travail collectif entre le Futuroscope, la ville, la communauté urbaine.
Exactement, on parle de patrimoine, on va revenir tout à l'heure sur Poitiers, hein, sur l'ensemble de Poitiers et puis sur votre programme. On va passer une deuxième pause musicale, tiens, c'est Ruelle sombre, une chanson qui nous est chanté par Luisa Pariente, et ce qui parle un peu de ce qui se passe à l'intérieur des maisons. On parle souvent de violence à l'extérieur, on parle de sécurité pour Poitiers, on s'aperçoit que les problèmes de sécurité, c'est aussi à l'intérieur des foyers. On écoute cette chanson, on revient tout de suite après.
Non maman, c'était pas tard le soir dans une ruelle sombre. Non maman, c'était pas dans ce bar où les lumières grondent. c'était pas dans un bois contre un arbre par un étranger. C'était pas dans les bras d'un lascar qui m'a kidnappé. Je connaissais ses yeux, je connaissais ses mains, je connaissais le poids de son corps sur le mien. Mais il a été tendre, je crois, j'ai oublié, après ce qu'il voulait prendre, mais sans me réveiller. Je suis pas innocente, dira-t-on de moi. Et promis, je n'en parlerai pas, puis qui me croira. Ironie, car au fond, même toi, tu ne le sais pas. Tu connaissais mon cœur, tu connaissais mon rire. Tu déchires ma pudeur en me laissant dormir. Au moins je peux pas me défendre, non, je peux pas crier. Faudrait pas se faire prendre ni me réveiller. Pas de rêve cette nuit.
C'était mon grand frère.
Et c'était mon entraîneur de sport.
C'était mon mec.
C'était mon père. T'étais capable du mieux. T'as préféré le pire. Je te fais mes adieux. Et je garde en souvenir. Non, ne t'en fais pas, j'avance vers mon bonheur. Et toi, ça te fait quoi d'être un violeur?
Pas de rêve cette nuit, donc avec un cauchemar donc dans mon lit. Une chanson qui parle de sécurité. La sécurité, on va l'aborder avec vous, hein, Anthony Brottier. Vous êtes, je rappelle, candidat aux élections 2026 pour Poitiers. La sécurité, c'est important. On l'a vu ces derniers mois avec quelques soucis extérieurs, mais c'est pas tout. Il y a aussi des problèmes, je suppose, à l'intérieur de chaque foyer. Hein. Chacun doit regarder un peu ce qui se passe chez lui aussi, quoi.
Oui, alors la sécurité, c'est tout simplement la première préoccupation des Poitevines et des Poitevins. Il y a un sondage qui avait été acheté par la mairie il y a quelques mois, et donc elle dit la sécurité, c'est la première préoccupation. Donc forcément, dans le programme qu'on va porter en 2026, il y aura des enjeux autour de la sécurité et des propositions, notamment autour de la police municipale et des équipements de la police municipale, des plages horaires, etc. Donc ce travail-là et ces propositions, elles vont venir. Mais vous avez raison, les violences, la sécurité, c'est aussi à l'intérieur du foyer. Et je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le village orange à Poitiers, hein, notamment pour eh bien, mettre en valeur la lutte contre ces violences, y compris et notamment faites aux femmes. Donc il y a tout un enjeu à faire sur les plus jeunes, dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les collèges, sur la pédagogie, sur l'égalité, sur la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Parce que si on veut endiguer ce fléau à long terme, ça passera par l'éducation des plus jeunes.
Exactement, c'est ça, oui, l'éducation des enfants. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ces bus du patrimoine qui permettaient justement de nous emmener un peu partout dans la Vienne, d'avoir une certaine culture. Sortir aussi, moi je suis né dans les quartiers de Poitiers, en fait, hein, je suis né à Saint-Cyprien, à l'époque, rue Pierre-Corneille. D'ailleurs, le bâtiment existe toujours. Et c'est vrai que quand on y pense, la situation a nettement évolué. Je suis ensuite allé à Saint-Éloi, qui n'est pas aujourd'hui forcément un très beau quartier. J'ai vécu aussi un peu aux Couronneries. Beaucoup d'endroits comme ça, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. On trouve la situation quand on est dans comme moi, un peu de loin, un peu regrettable. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être fait? Alors, on parle de police municipale. La police est armée ou non?
Non, aujourd'hui, la police municipale de Poitiers n'est pas armée. Elle n'a pas non plus ce qu'on appelle un peu vulgairement un taser, c'est-à-dire de pistolet à impulsion électrique. Donc non, ça fait partie des équipements qui, selon nous, devront être mis à disposition de la police municipale dans les années à venir.
Et la situation est si catastrophique que ça. On le voit dans les journaux, à la télé, on nous parle souvent de quelque part de mafia et autres. On n'est quand même pas à ce point-là, je suppose.
Bah, écoutez, moi, je n'ai pas l'intégralité des informations. Ce qui est sûr, c'est que la situation, elle se dégrade et qu'il ne faut pas le taire. Et donc, cet enjeu de sécurité, il faut le prendre à bras-le-corps avec les compétences qui sont celles de la collectivité. C'est-à-dire que la mairie, ce n'est pas la police nationale. Donc, elle a un pouvoir et des compétences limitées, mais il ne faut pas taire le sujet. Donc, ça veut dire donner les moyens à la police municipale de faire son travail. Ça veut dire aussi renforcer la prévention, la médiation qui se fait dans les quartiers, parce que c'est aussi par ça qu'on arrivera à changer les comportements. Ça veut dire l'éducation à la culture, vous l'évoquiez avec le bus du patrimoine. Moi, je crois aussi beaucoup à l'éducation par le sport, permettre une offre sportive plus importante dans l'ensemble des quartiers de Poitiers, parce qu'au-delà de l'activité physique, un enjeu pour la santé, c'est aussi la transmission de valeurs. Donc, il y a, à mon avis, un enjeu fort sur ça. Et puis, globalement, la vie dans les quartiers, parce que tout n'est pas noir dans les quartiers. La vie dans les quartiers, c'est vraiment le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on renforce les liens? Comment est-ce qu'on dynamise le commerce? On voit les difficultés rencontrées au centre commercial des Couronneries, au centre commercial des Trois Cités. Eh bien, ce vivre ensemble, cette capacité à avoir des lieux de vie dans les quartiers, c'est aussi ça qui conditionne, eh bien, qu'on s'y sente bien.
C'est ça. On en parlait d'ailleurs pendant la pause musicale. On parlait de marché, hein, de Chauvigny, dans lequel vous veniez peut-être assez régulièrement. Pareil, sur Poitiers, on a quelques marchés, donc quelques liens dans les quartiers, que ce soit celui des Couronneries ou celui du centre-ville. Pas mal de choses à faire de ce côté-là pour développer un peu ce lien entre habitants.
Ben, le marché, ça contribue à se vivre ensemble. Et c'est vrai que vous évoquez les deux principaux marchés de Poitiers, mais il y en a aussi dans d'autres, des plus petits marchés. Il y en a aux Trois Cités, il y en a à Bel Air, il y en a à Beljouanne. Et ça fait partie des choses qui contribuent à ce que les gens se croisent, à ce que les gens échangent. Le marché, en général, c'est une fois par semaine. Aux Couronneries, c'est deux fois. Mais tout l'enjeu, c'est de favoriser tous ces liens-là, que ce soit via le marché, que ce soit via les centres commerciaux, que ce soit via des activités sportives, des activités culturelles, des activités qui sont proposées. Et plus les gens vivent ensemble, plus les gens connaissent leurs voisins, plus les gens discutent, et plus c'est facile de vivre dans un quartier.
Exactement, ces quartiers, c'est un environnement, c'est aussi des habitations. Au niveau de l'habitation, justement, il y a des choses encore à faire où on a l'impression qu'il y a eu pas mal d'améliorations. Moi, j'ai connu les quartiers, donc je vous parlais de Saint-Cyprien tout à l'heure, et d'autres, on a vu que ça a été rénové, au moins de l'extérieur. Je suis jamais rentré dans un logement pour voir comment ça se passait, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. C'est Equidom, je crois, qui s'occupe de
ça. C'est ça. Le principal enjeu du logement à Poitiers et Grand Poitiers, puisque c'est une compétence de Grand Poitiers, c'est le logement social. Et s'il y a des choses qui ont été améliorées, il y a encore beaucoup à faire sur le logement social, beaucoup à faire sur la rénovation de certains logements. Vous évoquez Saint-Cyprien, mais les Trois Cités, on a la barre Normandie-Niémène, sur lesquelles des travaux vraisemblablement seront engagés. C'est un véritable enjeu. Et il y a dans beaucoup de quartiers trop de difficultés avec Equidom. Des difficultés liées à la qualité des logements, des difficultés liées à la relation avec le bailleur social. Et il y avait d'ailleurs eu une pétition à Poitiers il y a quelques mois, des locataires qui demandent notamment, et ça je crois que c'est quelque chose qu'on doit leur apporter, beaucoup plus de respect de la part du bailleur social.
Oui, c'est ça, beaucoup plus de respect. Puis c'est vrai qu'on peut se dire que si l'environnement est apaisé, la situation l'est aussi. On parle de Poitiers au niveau du patrimoine, au niveau économique. Si je vais placer Poitiers par rapport à Grand Poitiers, on est dans une ville riche, une ville pauvre, une ville qui est subventionnée par Grand Poitiers ou l'inverse?
Non, c'est difficile de dire si elle est subventionnée par Grand Poitiers. Ce qui est sûr, c'est que la configuration de la ville, et notamment avec une part importante d'étudiants, puisque sur les 90 000 habitants, on a presque un tiers qui sont des étudiants, font qu'on n'est pas sur une ville qui est riche. Après, je crois que l'enjeu de développement économique, d'activité économique, il ne doit pas se réduire à l'échelle de Poitiers, puisque il doit vraiment être vu à l'échelle de Grand Poitiers. On a des zones d'activité, qu'elles soient en périphérie ou dans Poitiers, qui contribuent au développement économique de Grand Poitiers. Donc si effectivement il y a des disparités de pauvreté entre les territoires, le développement économique, ça doit vraiment être une politique globale où tout le monde va dans le même sens.
Tout le monde va vraiment dans le même sens, puisque j'ai vu sur les réseaux que vous plaignez par rapport aux subventions de Grand Poitiers, entre guillemets, qui étaient plus dispensées vers Poitiers et puis la première couronne. C'est vrai qu'on a l'impression quelquefois que les communes un peu éloignées, hein, que ce soit l'Appuy pour moi qui habite l'Appuy ou que ce soit Rouillé ou autre, bénéficient un peu moins justement de cet apport financier.
Mais ce qu'il faut à l'échelle de Grand Poitiers, c'est qu'on remette au cœur de Grand Poitiers l'intérêt communautaire. On a une communauté d'agglomération qui a été faite un peu à bras forcés. Vous évoquiez l'Appuy par exemple. On a 40 communes, un territoire urbain, périurbain, rural, et donc avec des grandes disparités entre les communes. Et donc tout l'enjeu, c'est que chaque élu qui vient dans Grand Poitiers le vienne non pas forcément uniquement pour défendre sa commune, mais pour défendre un intérêt qui soit supérieur, qui soit l'intérêt de Grand Poitiers. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'y retrouve. Quand on voit des aménagements pharaoniques à Poitiers qui peuvent chiffrer à plusieurs dizaines de millions d'euros et qu'on est dans une petite commune et que bah, on n'arrive pas à refaire la voirie juste devant la place principale de la commune, bah, on a du mal à comprendre. Et donc tout l'enjeu, c'est à la fois de faire de la pédagogie, mais aussi eh bien, de mettre les enjeux les uns par rapport aux autres et d'essayer que tout le monde s'y retrouve dans cette communauté urbaine.
Les élections approchent, on parle de mars 2024-2026. Les élections approchent, vous avez une liste qui est constituée déjà, ou je suppose qu'au moins vous y pensez. Peut-être que Paul, d'ailleurs, sera dans le cursus.
Je ne sais pas pour Paul, mais la liste, elle est bien avancée. Il faut 53 noms. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de gens qui nous entourent. On prend le temps de constituer cette liste-là, puisqu'elle doit être déposée au mois de février. C'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète.
On peut supposer en effet qu'il y a pas mal de travail par contre, hein, puisque vous êtes occupé à côté. Vous le disiez, vous avez une occupation professionnelle que vous arrêtez très certainement si vous devenez maire de Poitiers. Alors je vais être un peu franc avec vous, hein, des chances selon vous. Alors je suppose que vous allez me dire oui, si je me présente, c'est parce que j'ai forcément envie d'être maire. Objectivement, vous avez des chances d'être élu par rapport à Mme Monconduit peut-être ou...
Bah écoutez, on va voir qui sera vraiment sur la ligne de départ, puisque le nombre de candidatures conditionne un petit peu les résultats. Mais oui, il y a une vraie possibilité. Je crois qu'aujourd'hui, le début de la campagne montre que l'alternative à Léonore Monconduit, c'est l'équipe qu'on est en train de porter. À la fois parce qu'on a fait le travail pendant 6 ans, par notre présence et par le suivi des dossiers. À la fois parce qu'on arrive à réunir des Poitevines et des Poitevins de tout horizon, de tous les quartiers, de toute catégorie socio-professionnelle. Et donc aujourd'hui, l'alternative à Léonore Monconduit, c'est nous.
Les soirées électorales, c'est l'ivresse des grands soirs. J'espère que vous ne rentrerez pas seul ce soir-là. On va se faire une petite pause musicale, tiens, avec Sam Sauvage qui nous chante justement « N'en fais pas pour elle ». À tout de suite.
Pas quoi faire, t'es resté près du bar, tu t'es mis à l'envers, cherchant des regards, t'as trouvé que ton verre, puis t'as croisé l'espoir dans son dos découvert. Non, 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 il ne faut pas y aller. Non, 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 crois-moi, je te connais. Puis t'as dansé ringard, rien que pour t'y faire voir, même le DJ se marre et tu t'es mis à croire quand elle t'a regardé. Sera belle, mais tu t'es bien gardé, ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, tu seras l'homme de sa vie. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux à fond, c'était juste différent. Faut vivre avec son temps, tu verras ça s'apprend. Pensais que la vie c'était comme dans les films des années 70. Tes parents t'ont menti, tout a changé depuis. Ça t'a pas refroidi, t'as joué la comédie. Crois-moi que c'est pas fini. Non, 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 il fallait pas y aller. Non, 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 mais t'as rien écouté. Puis t'as joué les bavards, rien que pour la faire asseoir là sur le côté du bar. Et tu t'es mis à boire quand elle t'a regardé. T'as pris des étincelles, mais tu t'es bien gardé. Ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, tu seras l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux avant. Ne t'en fais pas pour elle. T'es pas l'homme de sa vie, ni même l'homme de sa nuit. Plus rien n'est éternel, c'était pas mieux avant. C'était juste différent. Faut vivre avec ton temps. Allez, viens là, je t'apprends.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie d'Anthony Brottier, donc candidat aux élections municipales 2026 pour Poitiers. On parlait à l'instant, je vous parlais tout à l'heure des liens entre Grand Poitiers, enfin entre Poitiers, les financements de Grand Poitiers. Et je vous disais que j'avais vu des chiffres un peu particuliers, c'est-à-dire que j'ai vu sur vos réseaux sociaux, donc vous parliez de 80 millions d'investissements jusqu'en 2028. Vous parliez notamment de ces investissements qui allaient des 94% en direction de Poitiers et la première couronne, et le restant pour les petites communes. on a l'impression que c'est vrai qu'il y a quelque part, alors pourtant on est pratiquement aussi nombreux sur l'extérieur, mais beaucoup de différences entre les investissements, quoi.
Mais ce qui s'est passé, c'est que la fusion des collectivités, enfin des EPCI au moment de la loi NOTRe, enfin en 2017, elle n'a pas été faite avec des périmètres forcément équivalents. Et aujourd'hui, par exemple, l'ancienne, ce qu'on appelait GP13, hein, l'ancien Grand Poitiers à 13 communes, avait intégré tous ses équipements sportifs, par exemple. Et donc tous les gymnases qui sont de ces communes-là font partie de Grand Poitiers. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres intercommunalités qui, elles, avaient laissé les gymnases parfois dans les communes. Et donc on a une hétérogénéité de propriété de Grand Poitiers. Parfois, il a les équipements sportifs de certaines communes, parfois, il ne les a pas. Et donc, forcément, eh bien, les investissements, ils vont aussi vers ces équipements-là. Et donc, il y a un enjeu dans les années à venir à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Parce qu'on ne peut pas justifier, même si évidemment, Poitiers, c'est la ville-centre, Poitiers concentre l'essentiel des habitations, Poitiers concentre, est un véritable vecteur, une véritable locomotive pour Grand Poitiers, mais il faut s'assurer que tout le monde s'y retrouve dans cette communauté urbaine.
On voit, vous parlez de sport, vous parlez de gymnase, on pourrait parler de piscine aussi, on a eu les mêmes soucis sur les piscines. Au niveau de vos actions, au niveau de Poitiers, vous êtes donc conseiller communautaire aussi au niveau des sports. Je pense que votre programme est un peu plus large que ça, forcément. Hein. On peut parler peut-être des grands axes qui sont à venir. Vous allez développer quand votre programme?
Alors, le programme, il va sortir au mois de décembre, fin décembre. On le présentera publiquement dans cette phase-là, puis on aura une réunion publique fin janvier pour en parler. Sur la question du sport, il y a plusieurs choses. Il y a la question des équipements sportifs, vous avez évoqué les piscines, ça a été assez compliqué sous ce mandat-là, avec la fermeture, en tout cas le fait que Grand Poitiers ait laissé la piscine de Saint-Sauvent à la commune, la piscine de la Pépinière qui n'est toujours pas rénovée, les piscines de Belle-Joanne et de la Blaiserie qui devaient l'être et sur lesquelles les travaux ne sont pas encore engagés. Donc les piscines, c'est symptomatique des difficultés que Grand Poitiers a en matière d'équipements sportifs. Donc on a un enjeu sur la rénovation des équipements sportifs, on a un enjeu sur l'accessibilité des équipements sportifs. Ce n'est pas normal qu'en 2025, on ne puisse pas, quand on a des difficultés à se mobiliser, quand on a des difficultés qu'on est en fauteuil roulant ou qu'on a des difficultés à marcher, qu'on ne puisse pas rentrer dans tous les gymnases de Grand Poitiers. Ça, ce n'est pas possible. Et donc forcément, là-dessus, on aura un plan d'investissement dès le début du mandat pour mettre en accessibilité l'intégralité des équipements. Et puis après, il y a la question de l'offre sportive. L'offre sportive, c'est le soutien aux grands clubs, le soutien aux petites associations et surtout, comment est-ce qu'on propose dans tous les quartiers de Poitiers une offre sportive diversifiée qui permette à un enfant, quel que soit le quartier où il habite, d'accéder évidemment au foot, mais aussi s'il a envie à la gymnastique, au judo, au tennis de table, au rugby, à tous les sports possibles qui véhiculent des valeurs parfois différentes entre eux.
Exactement. Je rappelle que d'ailleurs, Chauvigny, hein, c'est 5-6 000 habitants à peu près, et on a pratiquement autant de licenciés en fait. Hein. Donc c'est une ville très, très dynamique au niveau des associations, au niveau du sport. Au niveau association, justement, Poitiers, vous avez un nombre à peu près d'associations? Vous connaissez à peu près?
Non, je ne saurais pas vous dire le nombre d'associations qu'il y a à Poitiers. C'est ce qui est sûr, c'est qu'on a un tissu très très riche, un tissu associatif très très riche. On a évoqué le sport, mais c'est le cas en matière de culture, c'est le cas en matière de solidarité, où on a vraiment, avec les maisons de quartier et avec toutes les associations de solidarité, un tissu très très riche. Et d'ailleurs, j'insiste là-dessus parce que la force d'une commune, ce n'est pas toujours ses élus. Le territoire, tout ce qui est fait, c'est bien souvent à l'initiative des associations. Et les élus, ce sont juste des facilitateurs qui viennent aider les initiatives de terrain.
Exactement. Ces associations fonctionnent avec des subventions. Hein. On a eu le même cas, j'avais posé la question à M. Pichon, à Alain Pichon au département. On a eu un rabais au niveau des subventions, 9 millions, je crois, pour le département. Au niveau de Grand Poitiers, c'est pareil. De Poitiers, en tout cas, c'est pareil. Il y a eu des...
Non, alors Poitiers ne connaît pas les mêmes difficultés financières que le département, hein, parce que Poitiers a une différence, c'est qu'il a encore le levier fiscal, il perçoit encore de la fiscalité et il a moins d'augmentations qui ont été votées par l'État. Le département est vraiment, de ce point de vue-là, dans une phase un peu critique qui lui a conduit à baisser ses subventions. Alors moi, je m'y suis opposé parce que j'entends les difficultés du département, mais je n'aurais pas fait les mêmes choix. La ville de Poitiers a encore cette souplesse-là de pouvoir maintenir les subventions aux associations à des niveaux proches de ce qu'ils étaient auparavant.
À la condition d'augmenter peut-être les impôts, non?
Ça me semble particulièrement difficile à Poitiers, tout simplement parce que le taux, il est déjà très très élevé, il est à 49%, ce qui fait partie des villes qui ont un taux d'imposition le plus haut. À Grand Poitiers, malheureusement, ça a largement été fait au début du mandat, hein, puisque la part de Grand Poitiers sur la taxe foncière a augmenté de 300%, 8 millions d'euros par an. Nous, on s'y est opposé, évidemment. Mais non, la fiscalité, ça doit vraiment être le dernier levier qu'on actionne pour faire entrer des recettes.
Et puis un moyen de faire rentrer les recettes, c'est d'amener des entreprises. Peut-être que ça pêche un peu au niveau de Poitiers. On les a fait sortir, de Poitiers pour les emmener sur la périphérie. Votre programme, ce serait d'en faire revenir un peu ou...
Ah mais très clairement, hein, vous avez raison, quand on veut à la fois enrichir le territoire, ça se fait aussi par l'économie et ce qui permet après d'avoir des redistributions aussi parce que c'est de la fiscalité. Quand une entreprise vient s'installer sur Poitiers ou sur Grand Poitiers, elle verse le versement mobilité, elle verse la CFE et donc toutes ces contributions, elles permettent aux collectivités d'avoir des recettes. Donc forcément, il faut falloir envoyer un signal positif pour qu'elles reviennent sur le territoire.
Désespoir, on peut toujours espérer de ce côté-là. La participation, c'est peut-être l'aide du Futuroscope, parce que c'est vrai que la zone du Futuroscope s'est bien développée. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 15 000 emplois, peut-être,
hein? Oui, beaucoup d'emplois sur le Futuroscope, avec des acteurs diversifiés, les centrales d'appel qui peuvent rencontrer parfois un petit peu de difficultés, mais on a aussi les acteurs de l'éducation nationale, le CNED, Canopé, qui sont vraiment implantés. Le Futuroscope, c'est une locomotive aussi, hein, c'est-à-dire que c'est un vecteur pour l'emploi, pour l'hôtellerie, pour la restauration dans le secteur. Il faut pouvoir capitaliser là-dessus, et donc forcément, on travaillera avec le Futuroscope sur ce sujet-là.
Alors je rappelle, hein, vous êtes candidat aux élections municipales à Poitiers en 2026 avec d'autres, hein, que ce soit Lucille Parnaudot, que ce soit peut-être Alain Claës, on ne sait pas, on n'a pas encore d'éléments de ce côté-là, Sacha Houlier ou d'autres, et puis sur Léonore Monconduit. Ça vous amène à commencer la campagne forcément en amont, hein, vous ne sortez pas uniquement les dernières semaines, hein, c'est ce qui peut arriver peut-être à certains politiques. Le contact avec la population est facile actuellement?
Ouais, excellent.
Le moral de la population est bon par rapport à...
Non, alors le contact est facile, le moral n'est pas toujours bon parce que tout le monde partage les difficultés du quotidien, tout le monde partage ce qui est véhiculé parfois à la télé. Donc non, forcément, c'est un peu difficile, mais les gens sont quand même dans le dialogue, on a la chance de pouvoir échanger, on a des retours très positifs lorsqu'on va à leur rencontre, les gens sont dans la proposition, les gens ne sont pas toujours dans la contestation. Donc c'est sûr que le climat est parfois un peu anxiogène, que ce soit pour les jeunes générations, pour les générations un peu moins jeunes. Et ce qu'on veut, nous, à Poitiers, c'est justement être capable d'alléger ce quotidien. Moi, je veux être un maire de proximité, je veux qu'on puisse avoir des élus proches dans les quartiers, je veux que quelqu'un qui a des difficultés, il sache vers qui se tourner. Et donc c'est tout ce qu'on va porter dans les mois à venir, c'est cette proximité, cette sincérité.
On parlait tout à l'heure, en tout début de l'émission avec Thomas Angélevie, enfin on écoutait son sketch tout à l'heure, hein, qui parlait d'une ville vivant dans le passé. Poitiers a un avenir quand même?
C'est ce qu'on est en train de construire. Exactement. C'est l'avenir de Poitiers. Donc oui, il y a un virage à prendre. Oui, il y a un passé et il ne faut pas renier ce passé parce que ça fait partie de la culture de Poitiers. Mais il faut être capable de prendre un virage. Et ce virage, il se prend aussi avec les nouvelles technologies, il se prend aussi avec le développement économique, sans oublier les solidarités parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et la perspective qu'on doit se donner à un horizon de 10 ans, c'est celle-ci.
Beaucoup d'étudiants aussi, hein, sur Poitiers, c'est pour ça que je parle d'avenir, beaucoup d'étudiants, vous avez des contacts avec eux? Alors eux ne votent pas forcément, hein, c'est pas la classe d'âge qui vote le plus, mais...
Non, mais quand on a une population, alors oui, on a des contacts, hein, on les rencontre, on rencontre les associations d'étudiants. Quand on a une population pour Poitiers qui a un tiers d'étudiants, on peut pas ne pas en tenir compte, que ce soit dans les mobilités, que ce soit dans les activités, que ce soit dans le logement, et donc forcément, c'est un paramètre important. Peu importe qu'ils votent ou qu'ils votent pas à Poitiers, on doit les considérer.
Oui, tout à fait. Ouais, beaucoup de jeunes, je le disais, beaucoup de très jeunes. Même au niveau de l'école, justement, hein, par rapport à cela, on a différentes écoles, on a Alphonse II, on a Andersen et toutes les autres. Le bâti de ce côté-là est en bon état?
Il y a de tout. Il y a des nouvelles écoles, il y en a une nouvelle à Montmidi, il y a des écoles qui ont été rénovées aux Couronneries. Il va falloir créer une nouvelle école aux Couronneries parce qu'aujourd'hui, on a des écoles qui sont surchargées. Il y a des écoles qui n'ont pas été rénovées. C'est le cas à Poitiers-Sud, entre Pagnol et Perrochon. Donc, on va avoir les deux. On va avoir des écoles à rénover, on va avoir une école à créer et on va avoir surtout un travail à mener avec les parents autour de ce sujet-là pour que la réponse qu'on apportera, elle soit à la hauteur de leurs attentes, que ce soit sur la partie scolaire, après on laisse à l'éducation nationale le travail qu'elle doit mener, que ce soit sur la partie périscolaire avec la restauration scolaire et ce qui se passe après l'école, la garderie ou dans les centres socioculturels.
Exactement, puis le transport pour aller à l'école tout simplement, beaucoup de choses, on le disait tout à l'heure, à faire au niveau de ce développement de transport. Si on devait juger le travail de Vitalis ces dernières années, vous seriez plutôt... dans la satisfaction ou...
Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, il y a une chose qui a été positive, hein, c'est la liaison avec Chauvigny, vous l'évoquiez voilà. Tout à l'heure, ça donne satisfaction. Il y a un travail qui a été engagé, pour le coup, sur les personnes à mobilité réduite et les personnes empêchées, qui celui-ci va dans le bon sens, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement à la hauteur des enjeux. Pour une raison simple, c'est que malgré les moyens qui ont augmenté, puisque la taxe sur les entreprises pour le versement mobilité a été montée au plafond, elle est désormais à 2%, eh bien, on n'a pas forcément l'offre en face. Il y a très peu de voies réservées aux bus qui ont été créées sous ce mandat-là. Le passage à 30 km n'aura pas simplifié la tâche et ça n'a pas été fait avec Vitalis. Et donc, tout l'enjeu autour de Vitalis, c'est de se servir des moyens dont il dispose aujourd'hui pour permettre une offre de transport qui réponde vraiment aux préoccupations des gens, aux trajets du quotidien, parce que ce sont bien les trajets du quotidien qui nous posent des problèmes en matière de transition écologique.
Poitiers, c'est aussi une entreprise, on peut le dire, hein, avec du personnel. Combien de salariés pour Poitiers?
Plusieurs milliers, plus de 2000 agents. Poitiers, Grand Poitiers, puisque ce sont des administrations qui sont regroupées.
Alors on dit souvent, on traite souvent les fonctionnaires locaux ou autres, hein, de feignant entre guillemets, disons qu'on dit souvent qu'il y aurait certainement des choses à voir pour améliorer un peu les conditions de travail et puis le rendement. Vos objectifs dans ce domaine, ce serait de...
Moi, j'invite ceux qui pensent que les agents de la collectivité sont des feignants à aller travailler un peu avec eux, parce que non, ce ne sont pas des feignants. Il y a un vrai travail. Et les agents publics, c'est vraiment le bras armé de la collectivité. Hein. C'est ceux qui sont en première ligne avec les citoyens, c'est ceux qui répondent. Et rien ne se fait sans les agents de la collectivité. Donc, il faut garantir des conditions de travail qui soient dignes, qui soient qualitatives. On a vu qu'ils ont eu des difficultés avec le télétravail. Aujourd'hui, le télétravail, ça ne doit pas être une option. Dans la plupart des administrations, c'est possible. Il faut que sur les postes administratifs de la collectivité, ce soit possible. Donc oui, il y a forcément un travail d'attention à porter aux agents pour leur garantir à la fois des conditions de travail dignes, mais aussi le sens du service public. Parce que si ces agents sont là, c'est qu'ils ont le sens du service public. Et parfois, ce sens, au regard des conditions qu'on leur donne, ils peuvent le perdre.
C'est ça, tout à fait. Donc ce sont des agents municipaux, c'est aussi des élus, hein, au niveau de la présence au conseil municipal. Les élus sont présents régulièrement ou on peut avoir, je dis ça parce qu'on peut avoir certains manques, hein, quelquefois. Moi, je l'ai vu, j'ai été élu à l'appui. Alors, c'est pas forcément la même grandeur, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours présent.
Non, mais j'invite ceux qui voteront à Poitiers à aller voir la présence de l'ensemble des candidats sur les conseils municipaux. Je crois que c'est assez instructif et puis ça montre dans quelle mesure les élus pour lesquels vous allez voter se sont engagés pendant le mandat. Parce que c'est vrai qu'un mandat d'opposition, c'est moins marrant qu'un mandat aux responsabilités. Et donc, pour ce qui est de mon groupe, parce que je ne veux pas parler pour les autres, on a évidemment été présent à l'ensemble des conseils municipaux, évidemment présent à l'ensemble des conseils communautaires et surtout travailler dans les commissions en amont de ces conseils-là. Donc pour notre part, on était présents. Pour les autres, il faut aller voir.
Exactement. C'est vrai que la présence est importante depuis le travail en amont. Alors vous le disiez, vous êtes conseiller d'opposition, donc forcément moins de temps, moins de moyens, on va dire, hein, pour aborder tous les sujets. Le bilan, en fait, on va essayer d'aller sur le bilan un peu de même me conduire pendant toutes ces années. Globalement, vous en diriez quoi? Bon, satisfaisant, moyen à revoir ou à terminer?
Non, le sentiment général, et encore une fois, j'ai du respect pour l'engagement. Léonore m'ont conduit à travailler pendant ce mandat. Il y a plein de choses qu'on aurait fait différemment, mais on a quand même le sentiment sur de nombreux sujets d'avoir perdu du temps. Vous évoquiez la sécurité comme un enjeu majeur. Sur la sécurité, il ne s'est rien passé. Le pendant de la sécurité, c'est la prévention et la médiation. Il aura fallu attendre il y a un an pour pouvoir avoir un GIP qui s'occupe de la médiation. Donc non, c'est malheureusement un mandat un peu d'inertie. Et aujourd'hui, on a perdu du temps qu'il va falloir rattraper dans des conditions plus difficiles parce que les moyens des collectivités se contractent. Donc, tout n'est pas acheté, mais malheureusement, il faut accélérer maintenant.
On rappelle que les élections auront lieu au mois de mars prochain, 2026. Peut-être encore le temps de s'inscrire sur les listes, c'est important ça.
Oui, bien sûr, c'est très très important. Jusqu'à début février, vous avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales. La démarche, elle est assez simple, elle peut se faire en ligne. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, faites entendre votre voix, peu importe pour qui vous allez voter. Mais plus la participation sera grande et plus les élus seront légitimes. Et donc c'est important que dans une ville de 90 000 habitants, il y ait une participation qui soit la plus grande possible. En 2020, on n'avait que 45 000 à peu près inscrits sur les listes électorales avec une participation de près d'un tiers. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait le plus grand nombre d'électeurs qui se déplacent les 15 et 22 mars 2026.
Exactement. Souhaitons aussi que les rancœurs se taisent, hein, que vous ne receviez pas le coup de pied de l'âne, on va dire, hein, par rapport à 2020. Je vous remercie en tout cas d'être venu, Anthony, parmi nous. J'espère vous revoir bientôt. Peut-être, si Mme Florence Jardin veut venir ici pour parler de son bilan sur Grand Poitiers, vous réinvitez à ce moment-là avec elle pour discuter de ça.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bonne semaine à tous, au revoir.
Au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.